persuader cet homme cabri en disant « l'Europe, l'Europe, l'Europe », mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien.
Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne.
Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec la participation de Tania Rachaud, les lectures sont de Camille Bloomberg et cette émission est réalisée par Lucien Auriol. Elle est également préparée avec l'aide de Pierre de Charette, Victor Simon, Pierre Tréléa et Eban Valais. Vous pouvez retrouver cette émission sur les sites Amicus Radio et Les Surligneurs.
Il faut rester dans le clou des diktats européens, ne pas dépasser les 3% de déficit public. Voilà ce qui compte à vos yeux. Rester dans le cadre de ces exigences européennes, même si bien souvent ceux qui font les portent ces exigences n'ont été élus par personne.
De notre point de vue, le pouvoir il appartient au peuple français, à la nation française. C'est la souveraineté nationale et non pas à des instances non élues à Bruxelles.
Pour moi, il y a une bonne Europe et il y a une mauvaise Europe. La bonne Europe, c'est l'Europe des démocraties. Chaque électorat, chaque peuple contrôle ses dirigeants qui sont responsables devant le peuple. Et les dirigeants ont les moyens de mener leur politique sur les aspects fondamentaux. C'est pourquoi je sors de Schengen. Je rétablis la capacité de mettre des droits de douane s'il le faut. Et nous votons nos propres lois sans subir les directives de Bruxelles.
Bonjour à tous. Vous venez d'entendre successivement Alexis Corbière de la France Insoumise, Florian Philippot, à l'époque vice-président du Front National, et Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France. Alors, quelle est l'idée reçue ? L'idée serait qu'il n'y a pas d'élus à Bruxelles. Et d'où vient cette légende européenne ? Alors c'est un mythe largement répandu en France. Car dans notre pays, on élit le président de la République au suffrage universel, alors qu'ailleurs en Europe, le chef de l'exécutif est plutôt élu par le Parlement. La concentration des pouvoirs entre les mains du chef en France est un cas peu fréquent dans les démocraties occidentales. Et pourtant, c'est un phénomène très ancré dans notre culture politique. Une culture marquée par le mythe de l'homme providentiel qui, une fois élu, réglera tous les maux du pays, réconciliera les familles entre elles, et si au passage, il pouvait trouver un traitement contre le coronavirus, alors du coup, on a tendance à oublier le Parlement national. Alors, vous vous doutez bien que le Parlement européen, c'est le cadet des soucis des Français. Je caricature un peu, mais quand même, cette idée reçue en France, selon laquelle il n'y aurait pas d'élus à Bruxelles, est une idée qui plaît. Pourquoi ? Parce qu'elle réduit la critique de l'Europe à son caractère non démocratique, sans avoir à la critiquer sur le fond. Un conseil. Si un jour vous êtes à court d'arguments dans une querelle, attaquez votre opposant sur sa légitimité. Il aura beau se défendre, il ne sera plus crédible et donc plus audible. Alors c'est vrai ou c'est faux cette idée selon laquelle il n'y aurait pas d'élus à Bruxelles ? C'est évidemment faux. Voyez le paradoxe qu'il y a à se déplacer tous les 5 ans pour voter pour les élections européennes, alors que certains politiques français continuent à dire que les institutions à Bruxelles ne sont pas élues, alors même que eux-mêmes, ces politiques, sont ou ont été élus à Bruxelles. Mais quand même, le Parlement européen est loin d'être exemplaire, et quand on sait qu'un électeur luxembourgeois a beaucoup plus de poids qu'un électeur français, ça pose quand même des questions sur la légitimité démocratique de ce Parlement Tour de Babel. Dans un premier épisode, je vous avais parlé des fonctionnaires européens, ces eurocrates non élus, comme certains les appellent. Notez d'ailleurs que les fonctionnaires français ne sont pas élus, non plus, même si, je vous vois, oui, on voudrait tous élire notre contrôleur des impôts. Ces fonctionnaires, donc, qui font vivre au quotidien la machine administrative de l'Union, ils doivent représenter les intérêts de l'Union et de ses citoyens, et non de ceux des États membres. Parmi les 56 000 agents publics qui s'affairent dans les institutions de l'Union européenne, à Bruxelles, à Strasbourg, à Paris ou encore à Varsovie, il y en a un, natif de Cornouailles, passé par le prestigieux Exeter College d'Oxford, et aussi féru d'environnement. Avec sa tignasse blonde, il entra à la Commission européenne en 1973 pour devenir le premier directeur de la division prévention de la pollution et des nuisances au sein du service de protection de l'environnement, tout nouveau service qui vient à peine d'être créé. Ce service de protection de l'environnement est créé justement tout juste après la déclaration de Stockholm, une déclaration qui est la première grande réunion des Nations Unies sur l'environnement et lors de laquelle les États du monde se sont engagés à coopérer pour protéger l'environnement. C'est le début, oui le début, de l'écologie en politique. Européen engagé, notre ami Stanley, c'est son prénom, saisit l'occasion de la première élection du Parlement européen au suffrage universel direct, en 79, pour se présenter et l'emporter. Devenu député européen, il s'engagea naturellement au sein de la commission environnement de l'Assemblée du Parlement européen. À la fin de son mandat, Stanley Johnson reprit son poste de fonctionnaire à la Commission européenne, toujours dans le service de protection de l'environnement. Et en tant que fonctionnaire européen, ses enfants pouvaient aller à la célèbre école européenne de Bruxelles, où se côtoient des enfants de toute l'Europe, où l'on parle une grande variété de langues, et où les cultures se mélangent, faisant ressortir les différences autant que les ressemblances. Et tenez, puisqu'on parle de ressemblances, l'un de ses fils, qui fut à cette école, Boris, avait la même tignasse blonde, hirsute que son père. Mais la ressemblance s'arrête là. Boris fit une carrière politique au Royaume-Uni, devint l'un des fers de lance du mouvement du Brexit et en tant que Premier ministre, obtint que son pays sortît définitivement de l'Union européenne. Ainsi, le 31 janvier 2020 à minuit, le siège qu'occupa autrefois son père au Parlement européen, après l'historique scrutin de 1979, a été retiré aux Britanniques. Et par chance, Stanley Johnson n'était plus assis sur ce siège depuis longtemps.
Mesdames et messieurs, les élus de l'Europe, les étoiles du destin et les chemins de l'écriture m'ont mené à cette tribune pour y vivre, présidente d'un jour, un honneur dont je n'aurais jamais osé rêver, et une joie, la joie la plus forte que puisse éprouver une créature au soir de son existence. La joie d'une vocation de jeunesse miraculeusement accomplie. Il me semble, en cet instant, n'avoir jamais traversé le siècle et sillonné le monde que pour venir à votre rencontre, en amoureuse de l'Europe, et pour tâcher de formuler avec vous, avec votre approbation, les angoisses et les espérances qui tourmentent, qui soulèvent notre conscience collective. Nos peuples nous écoutent. Les deux Amériques, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie nous écoutent. Ah, mes merveilleux Européens, sauvegardons ensemble notre bien le plus précieux, à savoir notre culture et notre fraternité en cette culture. Je vous demande votre accord.
Mesdames et messieurs les élus de l'Europe, on entend bien la voix un peu chevrotante de la vieille dame, Louise Weiss, prononcer un discours en tant que doyenne du premier Parlement européen, élu au suffrage universel direct en 1979. C'est ce même jour d'ailleurs que Simone Veil sera élue présidente de l'Assemblée européenne. Alors, il y a des élus, mais on ne les voit pas. Du coup, on les oublie. Ils sont pourtant nombreux, 705 députés élus au suffrage universel direct, l'un des plus gros parlements du monde. Mais alors pourquoi une telle absence dans notre quotidien ? Pendant longtemps, le Parlement européen n'en était pas vraiment un. Appelé Assemblée commune de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à ses débuts dans les années 50, les États fondateurs... Alors, il y a la France, il y a l'Allemagne, l'Italie, et puis les trois pays dits du Benelux, hein, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, Eh bien, ses États fondateurs n'avaient pas voulu lui accorder plus d'importance que ça. Il faut dire qu'il ne s'agissait à l'époque que d'une assemblée réunissant quelques députés des parlements nationaux. On avait donc des députés français, allemands, etc., qui, en plus de siéger dans leur pays, partaient de temps à autre en excursion à Strasbourg pour retrouver leurs collègues des cinq autres États membres. Une sorte de colonie de vacances pour députés, en somme. Alors à quoi servait cette assemblée, à laquelle peu de monde prêtait attention ? Eh bien, pas à grand-chose. Il faut dire qu'au début, elle n'avait pas vraiment de pouvoir décisionnel, elle ne rendait essentiellement que des avis. Pourtant, dès les débuts, les députés nationaux de cette assemblée, sans grand pouvoir, prennent l'habitude de s'organiser en groupes transeuropéens. Les libéraux, les chrétiens démocrates et les socialistes. Cette assemblée évite aussi la passivité qui lui avait été assignée et influence assez rapidement la haute autorité, l'ancêtre de la Commission européenne, notamment sur la politique sociale. Tenez, une illustration particulièrement gênante pour les juristes de cette image d'assemblée sans pouvoir qui colle à la peau du Parlement européen. Le dictionnaire des termes juridiques, Gérard Cornu, c'est le nom du dictionnaire, c'est la crème des dictionnaires pour les juristes. Eh bien, il mentionnait encore dans son édition de 2004 à l'entrée Parlement européen, assemblée qui remplit principalement des attributions d'ordre consultatif. Grossière erreur, qui plus est pour un ouvrage aussi respectable. Mais ça montre quand même, jusqu'à la caricature, qu'on a beau être l'un des plus grands parlements élus du monde et être pourtant l'oublié de l'histoire. Mais l'histoire, justement, eh bien, elle a poussé l'avantage en faveur du Parlement européen.
Pour la première fois, en effet, dans l'histoire, dans une histoire qui les a vus si souvent divisés, opposés, acharnés à se détruire, les Européens ont élu, ensemble, leurs délégués à une assemblée commune qui représente aujourd'hui, dans cette salle, plus de 260 millions de citoyens. Ces élections constituent, à n'en pas douter, un événement capital dans la construction de l'Europe depuis la signature des traités.
On a en effet plusieurs révisions, comme en parlait Simone Veil, des révisions des traités qui donnent plus de pouvoir au Parlement, en lui permettant d'avoir un embryon de pouvoir législatif dans quelques domaines, alors que jusque-là, le Conseil, qui réunit les ministres des États membres, décidait essentiellement seul. Mais le Parlement a aussi adopté une stratégie judiciaire pour se faire une place d'égal à égal aux côtés du Conseil et de la Commission. Un épisode insoupçonné et peu connu des citoyens va pourtant être un tournant dans la montée en puissance du Parlement. Nous sommes dans les années 80. À une époque où le Parlement européen ne peut pas attaquer une autre institution en justice. La Commission, le Conseil, ou même les États membres, eux, le peuvent. Ils attaquent parfois les décisions de l'un ou de l'autre, lorsqu'ils considèrent que cette institution a marché sur ses plates-bandes en prenant une décision qui n'était pas de son ressort. En clair, cette procédure permet à chaque institution de protéger son précaré en empêchant tout abus de pouvoir de la part d'une institution politique. Le Parlement, lui, s'était vu refuser cette capacité et il était à la merci du Conseil et de la Commission. À l'époque aussi, le parti écologiste Les Verts était tout juste naissant. Il n'était encore qu'un tout petit parti. Or, ce petit parti va jouer un rôle de premier plan dans l'affirmation du Parlement comme véritable pouvoir. Il va attaquer une décision du Parlement européen qui octroyait des fonds aux groupes politiques en vue des élections de 1984, la deuxième élection au suffrage universel direct. Les Verts s'étaient trouvés lésés par une répartition des crédits du Parlement européen et ils traînent le Parlement devant la Cour de justice des communautés européennes. L'affaire aurait dû s'arrêter là, car si le Parlement ne peut pas attaquer, il ne peut pas non plus être attaqué. Sauf qu'il va décider de se laisser faire, afin que la Cour de justice valide le recours des Verts et que le Parlement devienne donc attaquable. Est-ce que vous comprenez la logique ? Pourquoi ? Suivez-moi bien. Dans l'esprit du Parlement, si la Cour reconnaît qu'il peut être attaqué en justice, il lui faudra bien, plus tard, qu'elle reconnaisse qu'il puisse, lui aussi, attaquer les autres institutions. C'est ce qu'un juriste appellerait le parallélisme des formes. Résultat, c'est une victoire pour les Verts. La Cour accepte le recours des Verts au motif que la communauté économique européenne est une communauté de droit dans laquelle aucune institution n'échappe au contrôle de leurs actes par le juge. Pas même le Parlement européen, donc, dont les actes doivent pouvoir être attaqués. La Cour de justice vient ici de transposer pour la première fois au niveau européen le principe de l'état de droit. Et quelques temps plus tard, suite logique, la Cour autorise le Parlement à attaquer les décisions prises par la Commission ou le Conseil, permettant à cette institution représentant les citoyens de l'Union de se défendre et de protéger ses pouvoirs. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour le Parlement, hissé à la hauteur des autres institutions, c'est une étape majeure dans la transformation en véritable pouvoir. Mais alors, pourquoi, malgré ce poids désormais incontournable, certains affirment encore qu'il n'y a pas d'élus à Bruxelles? Cette pause est assurée par Minuit avec le morceau « Le goût du sel ». Alors je repose la question. Pourquoi, malgré le rôle déterminant du Parlement européen dans la politique de l'Union, certains, et l'idée est assez répandue, disent encore qu'il n'y a pas d'élus à Bruxelles, que l'Union n'est dirigée que par des technocrates? Il faut dire que les super-pouvoirs du Parlement européen sont assez récents. Même si quand même, ça fait 30 ans et ça commence à faire. Et puis surtout, le traité de Lisbonne, il y a 13 ans, qui élargit considérablement les domaines dans lesquels il a le même pouvoir que le Conseil réunissant les ministres des États membres. Aujourd'hui, le Parlement européen est co-législateur avec le Conseil dans 70% des domaines couverts par l'Union. Sur la plupart des sujets traités par l'Union européenne, le Parlement a donc son mot à dire. Perturbateurs endocriniens, glyphosate, politique migratoire, temps de travail des salariés, montant des aides agricoles ou même pour les projets d'infrastructure des communes. L'Assemblée est devenue indispensable. Il y a aussi, en France en particulier, quelques raisons qui peuvent expliquer la relative absence du Parlement européen dans les débats. Déjà, on parle peu d'Europe dans les médias en France. D'après une étude de la Fondation Jean Jaurès, en 2018, l'Europe n'a occupé que 2,7% du temps d'antenne des télévisions françaises. Alors, le petit écran reste encore et toujours le principal moyen d'information, malgré l'essor et la qualité des podcasts. Et puis, il y a aussi le fait que la France a une organisation très centralisée, où la souveraineté de l'État ne se partage pas vraiment. On cherche donc toujours la position de la France en Europe, et pas celle des députés. La puissance aussi du chef de l'État et la faiblesse de notre propre Parlement. on cherche toujours la position de la Commission ou du Conseil, et pas celle du Parlement, qu'on imagine soumis au gouvernement, comme le Parlement français l'est au gouvernement français. Alors il ne faut pas oublier aussi que la construction européenne était à l'origine une affaire entre États. Ce sont les États, et non les peuples européens, qui l'ont initiée. Une raison qui fait, peut-être, que l'on néglige encore aujourd'hui le représentant des peuples d'Europe, qu'est le Parlement européen. Et puis, il y a un débat depuis plusieurs années sur la représentativité du Parlement européen. Chacun des 705 députés ne représente pas en effet le même nombre de citoyens. Un député français représente très précisément 843 818 habitants. Mais un député maltais, lui, il n'en représente que 72 401. Un écart de 1 à 11. Un député français représente donc 11 fois plus de citoyens. Ou pour le dire autrement, le vote d'un citoyen maltais compte 11 fois plus que celui d'un Français. Si vous me suivez bien, vous comprenez qu'il y a donc, proportionnellement à la population, plus de députés maltais que de députés français au Parlement européen. Comment est-ce possible ? La réponse est dans l'article 14 du traité sur l'Union européenne.
La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de 6 membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de 96 sièges.
La voilà l'explication. La proportionnalité dégressive de la représentation. Plus un État est peuplé, moins il a de députés en proportion de sa population. Ajoutez à ça le fait que il ne peut y avoir moins de 6 députés, ni plus de 96 pour un État. Vous vous retrouvez donc avec un pays comme Malte, État le moins peuplé de l'Union, avec un peu plus de 400 000 habitants, qui a 6 députés. Alors que la France, avec ses presque 67 millions d'habitants, en a 79. C'est le grand écart. Mais c'est aussi pour éviter que les petits États n'aient qu'un seul député noyé dans la masse du Parlement européen. Résultat des courses, les petits sont proportionnellement mieux représentés que les grands. Mais l'écart est à relativiser. Prenons les 23 États les moins peuplés de l'Union. Ils représentent 42% de la population européenne, donc moins de la moitié, et un petit peu plus, 56%, que la moitié des députés au Parlement européen. Leur force est surévaluée, mais pas non plus de manière exagérée. Certains, malgré tout, se sont élevés contre cette inégalité des électeurs, notamment en Allemagne. La Cour constitutionnelle y a rendu un retentissant arrêt en 2009, par laquelle elle critiquait ce système de manière assez radicale. Elle considère en effet que le Parlement européen ne peut pas être représentatif des peuples européens, puisqu'une majorité au Parlement ne signifie pas forcément qu'elle représente une majorité de citoyens. Pour la Cour constitutionnelle allemande, le Parlement européen n'a pas une légitimité démocratique suffisante. Alors en France, le sénateur Jean-Louis Masson avait proposé en octobre 2018 d'imposer une représentation au Parlement européen proportionnelle à la population de chaque État membre. La proposition est quand même cocasse, même si l'intention démocratique est louable. Elle est cocasse parce qu'elle vient d'une personne qui a été condamné à un an d'inéligibilité en 1997 pour fraude électorale. Il avait créé une liste fictive pour affaiblir sa concurrente et remporter son siège de député à l'Assemblée nationale. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Quoi qu'il en soit, l'inégalité des citoyens devant le Parlement européen est un vrai problème qui doit être réglé. Mais je dirais que l'inégalité des citoyens devant n'importe quel parlement est un problème. En France, le député de Saint-Pierre-et-Miquelon représente 25 fois moins d'habitants que celui de Seine-Maritime. En Allemagne, un député de la plus petite circonscription représente 2 fois moins d'habitants qu'un député de Munich-Est en Bavière. l'hôpital, la charité. Mais pour l'heure, il est temps de retrouver Tania Rachaud pour sa chronique « Droits de l'homme ».
Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
Alors Tania, et les droits de l'homme, bordel ?
Bonjour à tous, bonjour Vincent. Avant de commencer, laissez-moi vous offrir un instant musical.
Tu votes utile, tu votes pantouche, tu votes pour le jazz manouche, tu votes parce que c'est bien délire, tu votes et ça te fait bien rire, tu votes facho, tu votes sarco, tu votes banal, tu votes royal, tu votes la haine, tu votes le peine.
Tu votes utile, tu votes en touche, tu votes facho, tu votes sarco, mais tu votes. Le message de la chanson du dimanche, écrite pour les élections présidentielles de 2007, est clair. Et peut-être que ce message a été entendu puisque le taux d'abstention des dernières élections pour les européennes en 2019 était de seulement 50%. Bon, seulement avec de grands guillemets, parce que ça n'est pas idéal, mais c'est mieux que les fois précédentes. Et dans ces 50%, il y a les prisonniers qui ont voté. Mais oui, les prisonniers votent. Quel que soit le motif de condamnation, une personne en prison ne perd pas ses droits politiques. Sauf bien sûr si elle est expressément privée de son droit de vote, ce qui est possible pour quelques infractions sur décision d'un juge. L'infraction a alors un lien direct avec les questions électorales, par exemple à cause d'une fraude au moment du décompte des voix. Enfin, ça c'est vrai en France. Au Royaume-Uni, notre ex de l'Union européenne, les prisonniers sont systématiquement et automatiquement privés de vote. Au XIVe siècle, le roi Édouard III avait déjà décidé d'appliquer cette mort civique, c'est-à-dire que les prisonniers ne puissent pas exister politiquement. Alors pourquoi ? Les arguments présentés par le Parlement britannique en 1983, lorsqu'il a intégré cette mort civique dans une loi formelle, étaient de dire que pour la durée de leur incarcération, les détenus condamnés perdent leur droit de peser sur la manière dont le pays est gouverné. Ils n'ont plus l'autorité morale nécessaire pour voter. On pourrait penser qu'après tout, ça ne regarde que le Royaume-Uni, mais c'est faux. S'il a effectivement quitté l'Union européenne, il reste un membre du Conseil de l'Europe et a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. Des prisonniers britanniques, beaucoup de prisonniers britanniques, 2500 en 2010, ont donc saisi la Cour européenne des droits de l'homme, revendiquant le respect de leurs droits de vote inscrits à l'article 3 du protocole numéro 1. Et cette interdiction automatique n'a pas plu à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné le Royaume-Uni de nombreuses fois pour ce motif. La Cour estime d'abord que les élus doivent représenter tout le peuple, y compris les prisonniers. Ensuite, même si elle admet qu'il soit possible pour cette raison d'interdire le droit de vote, elle s'oppose néanmoins à l'automaticité de cette interdiction. C'est une des raisons pour lesquelles le Royaume-Uni est aussi fâché contre le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme, qui l'accuse de dépasser les limites de sa compétence. Peut-être que ce cas a servi de leçon à la France, qui, bien que n'interdisant pas le vote, le rendait assez difficile en pratique, parce que peu de prisonniers établissaient des procurations. En France, il y a 50 000 prisonniers en capacité de voter. Une expérimentation a été lancée aux dernières élections européennes sur 10 000 d'entre eux pour qu'ils puissent voter par correspondance. Une expérience réussie avec un taux de participation de 84%.
Merci Tania pour cette chronique Droits de l'homme. Merci à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des Surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux pour l'actu.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.